du podcast Processus et sur le marché. On est content de le retrouver avec nous ce matin. Salut Marco D'Amico.
Salut Marco.
Salut les gars, comment ça va?
Ça va bien, toi?
Écoute, ça va, je sais pas. la fatigue. C'est-tu le matin?
Oui, on est très tôt le matin, là.
Le petit bébé rentré à la maison, t'es excusé, Marco.
Ah,
je sais c'est quoi.
Je comprends.
Ça compte plus, les gars.
Marco, je veux qu'on revienne ensemble sur le point de presse hier de Keith Perry du côté des Maple Leafs de Toronto. Wow. Moi, j'ai été diverti à souhait. non, mais pour vrai, j'en reviens pas encore plusieurs heures. Ça fait quand même... j'écoutais ça hier, là. J'en reviens pas encore de ce qu'on a entendu. Il y a des choses là-dedans que je pensais pas qu'un PDG d'entreprise pourrait dire en point de presse.
Je regrette, mais il doit être meilleur.
Exact. Exactement ça.
Oui, oui, absolument.
Mais... écoute, puis un jour, j'aimerais être le joueur parfait de Gilbert Delorme. Ça va être le 2-pour-2. Mais pour en revenir sur Keith, écoute, ça a fait preuve d'une belle transparence que je pense qu'il manque un peu à Toronto, ou il manquait un peu à Toronto les dernières années. Mais, ouais, écoute, de nommer des rivaux, de dire qu'il n'a pas vu venir Montréal, alors que Montréal a fait les séries l'année passée, avec ce jeune noyau.
Ben, il regarde pas le hockey, Marco Simonac.
Ben, il le regarde assez pour connaître les espoirs du Canadien de Montréal, moi, te le dire. Ouais, parce que non seulement est-ce qu'il a nommé Michael Agee durant son point de presse.
Michael Agee.
C'est ça. Ben, écoute, les gars, même les coéquipiers de Michael Agee ne prononcent pas bien son nom. Will Workoff l'appelle Ague.
Il est excusé.
Mais... il y a aussi, avec des questions qui ont suivi le point de presse, il a nommé David Reinbacher, il a nommé Adam Engström, il a nommé Jacob Fowler, il a aussi nommé Juraj Slafkovský. Donc, tu sais, est au courant.
Ah, ouais.
Il est au courant des espoirs du CH, puis il a aussi nommé une demi-douzaine d'espoirs des Sabres de Buffalo aussi. Donc, il est très au courant de ce qui se passe autour. Mais honnêtement, je trouve que ça l'a fait... Harper, l'expression en anglais « deer in the headlights ». On dirait que le fait qu'il n'a pas vu venir qu'est-ce qui s'en venait m'a vraiment fait un peu grincer. Et l'autre chose qu'il faut prendre en considération, le club était prêt à prolonger le contrat de Bradtree Living le mois passé. C'est pour ça que quand on parlait des Leafs le mois passé,
Le club, les Maple Leafs de Toronto étaient prêts à prolonger le contrat de Bradtree Living le mois passé.
Était prête à discuter d'une prolongation de contrat. Exact.
Ah ouais. Et basé sur quoi? Basé sur quel move a rassuré l'organisation des Maple Leafs de Toronto? C'est ça que je pensais.
Exact. Ce que je vais apporter encore avec plus de précision, c'est que c'est Brad Treliving qui lui est allé voir, qui est allé pour dire: je veux pas être un DG sur une île tout seul qui a pas le droit de faire des changements. Là. Si tu veux faire un changement, fais le changement. Puis c'est là où ce que les deux parties se sont faites. Merci beaucoup, bonsoir.
Okay.
Et qu'on a décidé de passer à autre chose. Craig Berube, même chose en ce moment. Il va être là comme entraîneur, mais ça va être le nouveau DG.
Va décider.
Ou combinaison président-DG qui vont être capables de décider qu'est-ce qui va se passer avec lui. Je sais qu'on a sorti certains noms. Ça va être intéressant, selon moi, de voir comment les choses vont se passer à Toronto. Je dis pas que cette personne-là va nécessairement devenir DG, mais retenez le nom de Haley Wickenheiser dans la restructuration du Hockey Ops avec les Leafs de Toronto. C'est une personnage qui est très bien aimé parmi les Leafs. Mais attendez-vous pour un club qui ne veut pas faire de reconstruction et d'ailleurs ne peut pas faire de reconstruction. Ils n'ont qu'un choix de premier tour dans les trois prochaines années, les Leafs s'entendent faire un reset.
Un reset.
Tu peux pas faire de reset. Ouais. Tu peux pas faire de reset sans échanger des joueurs de premier plan, spécialement quand t'as pas de choix de premier tour, t'as pas tes choix de premier tour. Je pense que le choix de premier tour de Colorado sera pas assez. Donc,
non.
Ça va être quelque chose à suivre cet été. Les Leafs, ça va être une équipe très, très, très importante. Mais je sais que le fait que le nom de Age est sorti a fait beaucoup réagir. Juste vous indiquer, tous les DG, tous les PDG de la Ligue nationale savent c'est qui Michael Agee, spécialement après son tournoi au championnat du monde junior. Tout le monde est très au courant de c'est qui. Donc, juste pas, on va pas s'envoler avec le narratif que oh, Michael Hayes s'en va à Toronto ou dans un possible échange cet été.
Mais tu le savais, parce que c'est toi qui me l'as dit en 2024, que les Leafs étaient intéressés à Michael Hayes au repêchage. Genre, je me souviens très bien d'avoir eu cette discussion avec toi. Là.
De voir tous les partisans des Leafs qui font comme ben non, c'est pas vrai. J'aime que t'as sorti, j'aime que tu sors ça en ce moment des autres parce que c'est, on en parlait à la table au moment où ce que Michael Hayes s'est fait repêcher alors que tu revenais de ton high. De voir Dimi Dub se faire repêcher du Canadien de Montréal.
T'as su le point de m'en remettre à ce moment-là, effectivement.
Ouais, écoute, j'ai encore cet extrait-là sur mon laptop, à quel point c'était drôle. Mais.
J'étais content. Juste pour
je te l'accorde, c'est oui. Mais Michael Hayes, il faut se le dire, là, était un joueur très convoité. Et plusieurs, vu sa mauvaise première saison et le fait qu'il était blessé, première moitié de saison et le fait qu'il était blessé, pensait qu'elle allait glisser, y inclut les Leafs de Toronto. Donc, c'est pour ça que Montréal a monté 21e. Pas nécessairement seulement pour repêcher Michael Hayes. On vous le cachera pas. Le Canadien avait plusieurs options sur la table. Ce choix de premier tour-là devenait disponible pour un autre échange si Ivan Demidov n'était pas disponible au 5e rang. Donc, il y avait beaucoup de choses là-dedans. Mais une des choses, c'est que le Canadien voulait se mettre devant les Leafs de Toronto parce qu'il savait que les Leafs de Toronto, qui d'ailleurs, pour ceux avec les yeux de lynx, vont voir que l'ancien DG du Steel de Chicago, où ce que Michael Hayes a joué son junior américain dans la USHL, est présentement l'assistant DG et le DG des Marlies de Toronto, mais aussi l'assistant DG des Leafs de Toronto. Ah. Donc, faites le lien.
Ouais, ça a bien de l'allure. Tu l'as mentionné tantôt. On veut pas faire de reconstruction parce qu'on n'a pas de premier choix. Keith Pelley a même avancé hier en point de presse. On n'a pas besoin de faire de reconstruction parce qu'on a déjà la fondation en place. Foundational pieces in place. C'est ça qu'il est utilisé comme terme.
Il n'y a pas tort,
mais est-ce que cette fondation-là est suffisante? Parce qu'à un moment donné, ça vient voir la fondation. Si tu n'as pas assez d'argent à mettre des murs, tu n'es pas plus avancé. Il y a ça qui rentre en ligne de compte. Puis là, c'est là où est-ce que je veux t'amener. Moi, je pense que c'est pas le prochain DG ou le prochain président des opérations qui va décider de la suite des Maple Leafs de Toronto. C'est Austin Matthews qui va dire « Je reste-tu ici? Est-ce que j'ai intérêt à rester après mon contrat ou je lève la main pour aller ailleurs? » Et à partir de cette information-là, c'est là qu'on va, on va voir dans quelle direction vont aller les Maple Leafs.
Exactement. Et c'est ça qui est drôle, parce que tu sais, le nom de Matthew Nyes est sorti durant la date limite des transactions, les Leafs écoutaient sur tout le monde. Mais la raison pourquoi le nom de Matthew Nyes avait le plus d'allure, pas en termes de joueur sur glace, mais en termes de business, c'est parce que c'était le seul joueur quasi, sinon élite, du côté des Leafs qui n'a pas de clause de non-échange. Et donc, qui ne limite pas le bassin de rivaux dans la Ligue nationale auxquels tu pourrais commencer une guerre d'enchères pour le joueur. Parce que si tu es capable d'échanger un joueur pour aller chercher deux morceaux élites, ben là, tu sais, c'est ça qui fait avancer des reconstructions. Tu sais, je compare un peu la situation Max Pacioretty contre Tatar, un choix de deux et Nick Suzuki. Oui, Nick Suzuki, ça va être un centre de 100 points maintenant, on le sait maintenant aujourd'hui. Mais le Canadien a aussi reçu Tatar dans le move, qui était un excellent échange dans le présent et pour le futur.
Oui, une jolie service en plus.
C'est ça, c'est exactement. Puis un choix de deux, tu sais, le Canadien a fait qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Là, ça n'a pas fonctionné avec les deux joueurs en tant que tel. Mais ça, c'est ça qui fait en sorte que tu es capable d'échanger un gros morceau, de rester à l'affût dans le présent, mais aussi te préparer pour le futur. C'est un peu des échanges comme ça, mais 100% raison sur Austin Matthews. Le seul bémol, ça devient le même bémol qu'avec Mitch Marner, clause de non-mouvement, même pas non-échange, clause de non-mouvement complète jusqu'à la fin de son contrat. Donc, tu peux pas faire un échange pour Austin Matthews, même s'il le désire, d'une position de force du côté des Leafs de Toronto. Parce que c'est lui qui va décider où ce qu'il va vouloir aller. Peut-être qu'il va te donner une liste de deux ou trois clubs, peut-être. Mais ça reste que ça va être ces trois clubs-là, et bonne chance. Et on l'a toujours vu. Tu regardes les clubs avec les joueurs avec des clauses. T'sais, on l'a vu avec Artemi Panarin, des deux choix conditionnels plus à Green Tree, qui d'ailleurs a été repêché avec le premier choix que le Canadien ait échangé pour aller chercher Michael Hage, le 26e en 2024, c'était pas un gros retour pour un joueur de la taille de Panarin, en plus qui signe une prolongation de contrat avec Los Angeles, mais c'est parce que c'est la clause et le fait que c'est Panarin qui a décidé où ce qu'il voulait aller qui a fait en sorte que le retour était moindre.
C'est sûr.
Les Leafs sont en ligne pour la même chose.
Mais t'as besoin de deux clubs. Si Matthews ou peu importe qui te donne deux clubs, ben là, tu peux avoir une enchère qui monte. Ouais. Puis souvenez-vous, quand Pierre-Luc Dubois a quitté Winnipeg, ben il y avait assurément dans le lot, évidemment, les Kings et le Canadien. Et ça a permis aux Kings quand même d'aller chercher un pactole intéressant. C'est Villardy, Ayafalo, Cooper et compagnie. Mais si tu as deux équipes, ben là, tu peux faire enchère. Si t'en as juste une, mais là, t'es à la merci de l'autre formation qui veut être fait ou pas avec toi. Puis dans le cas d'une super vedette comme Austin Matthews, ben, ça revient un peu à Mitch Marner au final. Les Golden Knights le savaient que les Maple Leafs allaient le perdre pour rien, puis qu'ils allaient signer le lendemain ou presque, peu importe, au marché des joueurs autonomes. Fait que t'es comme, ben, on va prendre Nicolas Roy, puis merci beaucoup.
Ouais. Mais écoute, cette clause-là leur a coûté chez Theodore, parce que les Leafs et les Golden Knights avaient une transaction conclue entre chez Theodore plus pour Mitch Marner l'été d'avant qui signe avec les Golden Knights ou qui se fait transiger aux Golden Knights. C'est Mitch Marner qui a cette transaction-là avec sa clause parce qu'il a refusé de se faire échanger aux Golden Knights.
Même la saison morte précédente, Marner... On entend toujours parler de la fameuse transaction de Mikko Rantanen. Je ne savais pas qu'on avait tenté de le passer au moins un an à l'avance. On a déjà fait plus nos devoirs du côté de Toronto.
Ils ont échangé de excusez-moi. Brad Treliving a essayé de l'échanger plus qu'une fois. Et les Golden Knights étaient prêts avant qu'ils ont su, bien sûr, le futur de la carrière et la fin de la carrière, malheureusement, de Pietrangelo. Ils étaient prêts à transiger Theodore, parce qu'à ce moment-là, si je me trompe, sa prolongation de contrat n'avait pas encore commencé. Donc, c'est là que ça devenait intéressant. Mais tu vois, sans cette clause de non mouvement dans la dernière année ou les dernières deux années du contrat, les Leafs auraient très bien pu monnayer et avoir une juste valeur pour un joueur de 100 points et pas juste un choix de tardif de premier tour et un choix de 5 dû à la transaction de Nicolas Roy. Tu sais, c'est une immense drop de valeur et il n'y a pas un club de la Ligue nationale qui peut se remettre de perdre un joueur de 100 points sans recevoir un joueur quasi au même niveau, un peu à l'image de qu'est-ce que les
Colorado a fait. Ou un package au moins.
Exemple, qu'est-ce que Colorado a fait, où ils ont échangé Rantanen, mais sont allés chercher Nietzsche.
Exact. Je le souligne au passage, des clauses, Kent Hughes, il n'en donne pas beaucoup. Qui a des clauses
pour le match?
Il y en a, mais c'est peut-être un peu plus tard dans les contrats. Si on regarde, quand même quelques années là, que Kent Hughes est en poste, là, et si on regarde les joueurs actifs chez le Canadien qui ont des clauses, Laine en a une, c'est pas son contrat. Gallagher en a une, c'est pas son contrat. Anderson en a une, c'est pas son contrat. Dano en a une, c'est pas son contrat. Dobson en a une, ça c'est le contrat de Kent Hughes. Madison en a une, c'est l'ancien contrat de Madison, c'est pas le contrat de Kent Hughes.
Son nouveau contrat, n'a pas.
Le nouveau contrat de Madison, non, je suis pas mal sûr qu'il y en a. Non, il y a des clauses.
Oui,
il y a trois non-mouvements pour les trois premières années.
Okay.
Et après ça, dans les deux dernières années du contrat, c'est des clauses modifiées. On parle de 14 équipes et finalement 5 équipes. Mais tu sais, 5 équipes, là. T'as amplement le contrôle sur la destination du joueur. Là.
Même 14,
là, exactement.
Il va en avoir 34 équipes, là, on s'en fout. Mais ce que je dirais, par contre, des autres, puis une des choses qu'il faut prendre en considération quand on regarde les clauses, Kent Hughes a signé majoritairement des contrats de joueurs sortant de leur contrat d'entrée. Un joueur, durant ces années où il est considéré un joueur avec restriction, ne peut pas avoir de clause sur son contrat. Donc, exemple, si tu regardes le contrat de... on va en choisir un aléatoire, là, mais si tu regardes le contrat de Nick Suzuki n'a pas de clause jusqu'à temps qu'il a 27 ans dans son année de contrat. Si tu le vois, là, sa clause commence juste l'année prochaine.
Exact.
Parce que l'année prochaine, si Nick Suzuki n'était pas signé pour l'année prochaine, cet été-ci, il aurait pu devenir un agent libre sans restrictions. Et c'est à ce moment-là où ce que tu peux avoir des clauses. Mais si c'est tes fameuses années RFA, tu n'as pas le droit de clause sur ton contrat. La seule raison pourquoi Mitch Marner en avait une aussitôt de son âge, c'est parce qu'il a commencé très tôt. dans la Ligue nationale. Il a commencé à 19 ans. Donc, il pouvait avoir une clause à partir de 26 ans parce que la règle dans la Ligue nationale, c'est où tu arrives à 27 ans ou tu joues 7 ans dans la Ligue nationale. Ben, lui, il en avait 26, il a joué 7 ans. Il a pu avoir une clause et c'est pour ça qu'on a vu une clause de non-mouvement à la fin de son contrat. Mais les joueurs qui ont 27 ans et plus, c'est très normal d'en voir une. Puis Noah Dobson, on vient d'en parler, Noah Dobson lui aussi a commencé dans la Ligue à 19 ans avec les Islanders. S'il n'y a pas de clause cette année à son année de 25-26 ans, mais sa clause de non-échange partiel débute le 1er juillet cet été-ci, alors qu'il aurait pu devenir agent libre sans compensation à partir du 1er juillet s'il n'avait pas signé une prolongation de contrat.
Ah, mais sa clause est enclenchée. Là. C'est son nouveau contrat, là, mais il y a lui une clause modifiée de 14 équipes d'Hobson. Mais encore une fois, 14 équipes, t'as plus que la moitié de la ligue à qui tu peux faire monter les enchères. Fait que ouais. Ça te resterait pas en tant que directeur général. Puis moi, je pense que Kent Hughes, il est conscient de ça. Il y a des DG qui se peinturent dans le coin avec des salaires faramineux. Puis là, après ça, on n'a plus de place, on est obligé d'échanger des choix. Je pense qu'on a une saine gestion financière. Le noyau de notre équipe est signé à long terme, à l'exception peut-être d'Ivan Demidov, là, qui est celui qui s'en vient.
Puis même là, ça devrait pas tarder, puis ça devrait pas faire sauter la banque non plus.
Exact. Ah non, c'est vraiment encourageant pour la suite des choses du Canadien. Moi, je suis vraiment emballé parce qu'on voit, Marco, encore hier, une super belle victoire de la formation du Canadien de Montréal. Et je sais pas qui va affronter Montréal en série, là, mais je suis pas sûr qu'ils vont être heureux de pogner Montréal.
Bonne chance!
Bonne chance.
Oui, monsieur.
Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est maudit que l'Atlantique est la meilleure division de hockey dans la Ligue nationale en ce moment.
Et de
c'est
loin.
Très beau à voir.
Et de loin.
C'est très beau à voir. Hey, j'aimerais voir un contre 16 puis voir les équipes de l'Atlantique jouer contre les équipes de Pacifique.
C'est ça que je dis depuis des années, Marco. Il n'y a pas personne qui m'écoute, Batin. On dirait que je suis à la maison avec ma femme, Calvaire.
Moi, je t'écoute. Ouf. Oh boy, OK. Moi, je touche pas ça, Gilbert.
OK, c'est bon, c'est bon.
Le Canadien pognerait les Blue Jackets de Columbus dans un format 1 contre 16.
Quelle série! Ça, ça serait de toute beauté.
Ouais, ce serait très, très bon. Merci, Marco, d'avoir été avec nous ce matin. On t'entend dans les différents podcasts sur la commission athlétique, puis on se reparle bientôt.
Salut!
Un gros plaisir, les gars. Bon matin.
Salut. OK, bye-bye. Marco et l'amico, vous pouvez entendre sur le marché et évidemment dans le podcast aussi. Processus. On va à la pause de l'autre côté. Quelques matchs intéressants dans la course aux séries. On fait le tour de tout ça dans deux minutes.